12h30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine à passer ensemble sur Europe 1. Anissa est là, fidèle au poste,
bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dans une minute, votre grand journal, Pierre de Villeneuve. Et juste après, on a une heure pour faire bouger la France ensemble, aujourd'hui au sens figuré comme au sens propre d'ailleurs. Car c'est à vos bonnes résolutions qu'on va s'intéresser. Et la première d'entre elles, c'est bien sûr de faire du sport. Des Français font ce qu'ils peuvent d'ailleurs pour secouer le secteur. C'est parti, Toto Youtou.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Un duo pour remplacer Chantal Jouanneau au pilotage du grand débat national.
Ce sont Emmanuel Wargon et Sébastien Lecornu, la secrétaire d'État à la transition écologique et le ministre chargé des collectivités territoriales qui reprennent le flambeau. Précision dès le début de ce journal et nous reviendrons bien sûr sur cette lettre d'Emmanuel Macron annonçant justement ce grand débat puisant dans les doléances des Français. Nous entendrons également la réaction des Gilets jaunes. L'autre titre de l'actualité de ce lundi, c'est le crédit d'impôt demain. 9 millions d'entre vous allaient recevoir de l'argent de la part des impôts, mais attention, cette somme est à manipuler avec prudence. Dans ce journal également, nous retournons sur les lieux du drame à Paris, dans le 9e, rue de Trévise, là où une explosion due au gaz a coûté la vie à 4 personnes. L'ouverture aujourd'hui du procès de ce qu'on a appelé le viol du 36, une touriste canadienne affirme avoir été violée par des policiers, c'était en 2014. Fin de partie pour Andy Murray, blessé à seulement 31 ans, il dispute en ce moment son dernier Open d'Australie. Et puis un bel anniversaire, celui de l'Opéra de Paris, 350 ans d'existence et déjà 3 décennies pour l'Opéra Bastille. La météo, Elena Morna, et ça s'améliore.
Les éclaircies reviennent plus ou moins timidement sur le nord et l'ouest. Encore quelques flocons sur les reliefs de l'est où il est tombé jusqu'à 50 cm ce week-end et un fort risque d'avalanche en Savoie. Prudence.
Merci Elena, à tout à l'heure. Météo complète, ce sera juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
Ça y est, Pierre, Chantal Jouanneau a donc été remplacée au pilotage du grand débat national.
Et Emmanuel Wargon, la secrétaire d'État à l'écologie, fera tandem avec Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales. Voilà ce qu'on sait pour l'instant, car Édouard Philippe précisera les détails tout à l'heure. En attendant, ce qu'il y a d'important, Virginie Rivas, c'est que ce sont deux ministres en exercice qui reprennent les rênes.
Oui, effectivement, l'enjeu de ce débat pour l'exécutif est trop important. C'est pour ça que le président a décidé d'en confier l'organisation concrète à ces deux ministres. D'ailleurs, vendredi, un ministre nous glissait un peu effrayé sur ce débat. On joue très gros, sans doute, la suite du quinquennat. Donc Sébastien Lecornu va s'occuper du dialogue avec les maires, Emmanuel Wargon des rapports avec la société civile, des ministres qui ont découvert leur mission seulement mercredi dernier et qui ont travaillé tout le week-end en lien avec Matignon pour trancher les détails opérationnels, mettre en place les équipes. Sous leur autorité, ils auront une vingtaine de personnes. La Commission nationale du débat public et ses salariés est totalement débranchée. Ils ont surtout réfléchi à comment déminer toute critique de reprise en main du débat par l'exécutif. Le collège de garants, qui seront un peu les sages de ce débat, devrait être annoncé aujourd'hui. Des personnalités incontestables pour garantir la sincérité de la synthèse au niveau national, explique un ministre. Intensité, Nicole Nota, l'ancienne patronne de la CFDT. Le nom de Jean-Paul Bailly, ancien patron de la RATP, revient aussi. Mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Des participations qui, dans l'entourage d'un des deux ministres chargé du débat, serait totalement bénévole après le scandale du salaire de Chantal Jouanneau.
Merci Virginie Riva du service politique d'Europe 1. Alors ce duo devra composer avec les doléances des Français, c'est le but, hein. Doléances que l'exécutif est allé chercher, analyser, synthétiser, ce qui a donné lieu à cette lettre d'Emmanuel Macron aux Français. 35 questions sur la fiscalité, la démocratie, l'écologie, l'immigration. Dans le détail, ça donne quoi Jean-Rémy Baudot?
Eh bien Pierre, ça donne une lettre où dès les premières lignes, le président explique qu'il n'y aura pas de mots interdits, de questions interdites pardon, dans ce débat, même si à demi-mot, il affirme ne pas vouloir revenir sur l'ISF ni sur tout ce qui a déjà été voté. Pour Emmanuel Macron, ce temps doit être l'occasion d'apporter, je cite, une clarification à notre projet national et européen. Et par la suite, à travers les quatre thèmes du débat que sont la fiscalité, l'État, la transition écologique et la démocratie, le président propose des questions qu'il juge essentielles. En tout, plus d'une trentaine d'interrogations relevées sur les premiers cahiers de doléances. Comment rendre notre fiscalité plus juste? Quelles économies vous semblent prioritaires? Faut-il reconnaître le vote blanc? Ou encore, quelles propositions concrètes pour accélérer notre transition environnementale? Le président aborde aussi d'autres sujets plus sensible. Il parle laïcité, immigration avec la question sur d'éventuels quotas. Une revendication qu'on ne retrouve pas chez les Gilets jaunes, mais il s'agit pour le chef de l'État de parler à l'ensemble des Français. Emmanuel Macron qui appelle dans les toutes dernières lignes à transformer les colères en solutions. Il promet un nouveau contrat pour la nation et rappelle que le débat est, je cite, « ni une élection ». Ni un référendum.
Merci Jean-Rémy Baudot en direct de l'Élysée pour Europe 1.
Alors, quelle réaction ? On scrute bien sûr celle des Gilets jaunes et de leurs représentants. La manière la plus simple, la plus directe aussi, c'est d'aller voir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'y dit, Théo Manval ?
Eh bien, au mieux, c'est rien de nouveau. Continuons le combat. Pour beaucoup de Gilets jaunes, une phrase résume en fait l'essentiel de cette lettre. J'ai été élu sur un projet auquel je demeure fidèle. Autrement dit, rien à attendre du débat, estime déjà Gilles Latour, coordinateur des Gilets jaunes dans la Meuse.
Il ne veut pas bouger sur son programme, on a bien compris. Il dit bien qu'il ne veut pas toucher à l'ISF parce qu'ils voilà, ne vont plus investir dans notre pays, mais il ne regarde que son nombril. Il a l'impression justement qu'il a été élu sur un cap. Il n'a pas été élu sur un cap. Les gens, ils avaient un choix entre Mme Le Pen et M. Macron. Ils ont voté pas par conviction, mais c'était lui ou l'autre, quoi. On repart toujours des mêmes choses. Ça ne donnera rien, ça.
Et puis, il y a une inquiétude qui revient beaucoup sur l'une des questions posées par le chef de l'État. Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires ? Faut-il supprimer certains services publics ? Là, on fait totalement fausse route, dénonce Romain Chabanel, Gilet jaune dans le Gard.
Les services publics, c'est la dernière chose à laquelle il faut toucher. Commençons déjà à faire une guerre sans merci contre les lobbyistes, les multinationales, une remise à zéro de certaines niches fiscales, tout ce qui est dépenses ministérielles. Avant d'avoir pris des engagements avec les Français, nos présidents, malheureusement, prennent des engagements avec des privés fortunés.
Alors, mais Romain, salue l'initiative de cette lettre. Malgré tout, le président, dit-il, a pris conscience qu'il est au pied du mur. Il a posé des questions. Maintenant, il faut qu'il écoute nos réponses.
Merci Théo Manval.
Il est 12h35 sur Europe 1. La suite du journal, Pierre de Villeneau, Raphaël Duchemin.
Venons-en, Pierre, maintenant à ce drame. À Paris, c'était samedi matin, l'explosion due au gaz dans une boulangerie rue Trévise, dans le 9e arrondissement. 4 morts, c'est le bilan.
Oui, 4 morts, dont 2 pompiers de 26 et 28 ans, une cinquantaine de blessés, dont 9 graves. Ce matin, Europe 1 est retourné sur les lieux. 12 immeubles du quartier restent fermés. L'idée, c'est de vérifier si leurs fondations n'ont pas bougé dans l'explosion. Mais du coup, pour les habitants, c'est impossible pour eux de retourner chez eux. Mathieu Bock, vous êtes sur place en direct. Ces habitants, ils font comment pour s'organiser ?
Eh bien, ils se sont réunis ce matin pour tenter de répondre à cette question. Pierre, ils ne sont donc pas allés travailler et se sont retrouvés dans un café pour faire le point, échanger leurs numéros de téléphone et leurs adresses mail. C'est ce que raconte Nicolas, un jeune père de famille qui habite au 3e étage.
On s'est réunis entre voisins pour essayer de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir peut-être accéder à l'immeuble pour récupérer des affaires, comment on va gérer avec les assurances. Enfin, en fait, il y a 150 sujets qu'il faut qu'on gère. Alors effectivement, je ne travaille pas aujourd'hui, je laisse tout ça de côté pour gérer. Avec tous les voisins, on se serre les coudes, on est à part une, on est sortis tous vivants presque. Donc on a le sentiment d'avoir eu de la chance, mais en même temps, on sait que ça va être long, que ça va être très long.
Voilà, toutes les hypothèses sont abordées par ces habitants, déménager, vendre et même ne jamais réintégrer l'immeuble. Ce que redoute William, un retraité qui voudrait simplement récupérer quelques affaires.
C'est des sujets que je ne soupçonnais même pas. Qu'on pourrait démolir l'immeuble par sécurité. Ils sont fous, quoi. Qu'est-ce que démolir l'immeuble ? Ils sont malades. Il paraît que c'est une possibilité que la préfecture de police, pour pas être emmerdée, dit bon, on prend pas de risque, on démolit l'immeuble, on le reconstruit. Et on rêve.
Pour le moment, le quartier reste bouclé. Personne ne peut passer à part les experts et les ouvriers. Les habitants ne savent donc toujours pas quand, ni même s'ils pourront rentrer chez eux un jour.
Et on sent leur désarroi. Merci Mathieu Bock en direct de la rue de Trévise à Paris. Cesare Battisti est arrivé en Italie. L'ex-activiste d'extrême gauche expulsé hier de Bolivie revient dans son pays d'origine après des décennies en cavale. Il va purger une peine de réclusion à perpétuité pour sa participation à 4 meurtres en 1978 et 79.
Il est 12h38. Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Comment fonctionne le crédit d'impôt avec le prélèvement à la source ? On vous explique tout. À tout de suite.
Il est 12h40 sur Europe 1, la suite de journal. Pierre de Villeneau, Raphaël Duchemin.
Demain, Pierre, près de 9 millions de Français vont recevoir de l'argent.
Oui, alors c'est pas Noël, hein. Ce sont les impôts, c'est très sérieux. Et pour être totalement précis, ce sont les acomptes des crédits d'impôt dans le cadre du prélèvement à la source. Au total, le Trésor public va distribuer 5,5 milliards d'euros à 8 800 000 foyers. Une somme à manier avec précaution, Olivier Samin.
Oui, alors pour comprendre, je vous invite à faire un petit retour en arrière. En mai dernier, quand vous avez fait votre déclaration sur les revenus de 2017, si vous avez, par exemple, déclaré l'emploi d'une femme de ménage, Cette dépense vous a donné droit à un crédit d'impôt. Eh bien, l'administration fiscale fait le pari que vous avez continué à employer cette personne en 2018 et que vous êtes donc éligible, cette fois-ci encore, à un crédit d'impôt. Comme elle ne peut pas faire apparaître ce crédit d'impôt chaque mois dans le prélèvement sur votre salaire, elle va vous le verser en deux fois. Demain, sur votre compte bancaire, vous allez toucher une avance. Une avance égale à 60% du crédit d'impôt que vous aviez touché l'an dernier. Le solde, elle vous le versera en même temps que votre avis d'imposition à la rentrée de septembre. C'est là qu'il faudra être attentif, car si dans les faits, vous avez cessé d'employer votre femme de ménage en 2018, vous devrez rembourser la totalité, ou en tout cas une partie, de la somme que vous allez toucher demain. Précision importante, il n'y a pas que l'emploi d'une femme de ménage. Le système est le même si vous avez déclaré des dons, si vous avez payé une cotisation à un syndicat, si vous avez employé une nounou, ou par exemple, si vous avez financé l'hébergement de vos parents en maison de retraite.
Eh bien, c'est très clair. Merci Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Par ailleurs, demain également va être opéré le premier prélèvement à la source pour les travailleurs indépendants, les commerçants, les artisans, les professions libérales. Ça représente 5 millions de foyers. Et pour vous, eh bien, si vous êtes dans ce cas, ce ne sera pas sur le bulletin de salaire, puisque vous n'en avez pas, mais un prélèvement direct sur votre compte en banque.
L'actualité judiciaire maintenant, Pierre, et c'est l'ouverture aujourd'hui du procès du viol du 36.
Ouais, l'affaire avait fait grand bruit, souvenez-vous. Avril 2014, une touriste canadienne accuse deux policiers de l'avoir violée dans les locaux historiques de la PJ au 36 quai des Orfèvres, tard dans la nuit, après une soirée dans un bar. Le procès s'ouvre tout à l'heure dans deux heures. Chloé Triomphe.
Oui, ce soir-là, Emily Spanton sort seule à Paris dans un pub irlandais traditionnellement fréquenté par des policiers. Rassurée par leur fonction, elle enchaîne joyeusement les verres et flirte ouvertement avec l'un d'eux qui lui propose de venir visiter les locaux. Vers minuit 40, la jeune femme entre donc au 36 quai des Orfèvres et en ressort un peu plus d'une heure plus tard. En état de choc, elle dit avoir été violée par plusieurs policiers. Durant l'enquête, les versions seront changeantes de part et d'autre, mais toujours contradictoires entre les policiers et Emily Spanton, qui presque 6 ans après semble toujours très marquée psychologiquement, selon son avocate, Maître Sophie Obadia.
Alors cette femme a aujourd'hui 38 ans, elle est retournée vivre chez ses parents, elle a perdu son compagnon et elle n'a plus de travail. Sur le plan psychologique, elle est relativement fragile, très émotive, toujours suivie, une fois par semaine. Je ne suis pas expert psychiatre, mais pour moi c'est une femme réellement souffrante. Donc oui, ça sera une épreuve absolument redoutable. Je ne veux pas lui dire pour elle que ce sera redoutable, parce que je ne veux pas la stresser, mais évidemment que ce sera redoutable.
Ce procès de 3 semaines va donc raviver les souvenirs, d'autant plus qu'il se déroule à quelques dizaines de mètres des anciens locaux de la BRI, dans le même bâtiment du palais de justice de l'île de la Cité. À tout moment, la partie civile peut décider de demander huis clos.
Merci Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Il est 12h44, vous écoutez le journal d'Europe 1 avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Connaissez-vous la téléconsultation, autrement dit la possibilité de consulter un médecin via Skype ou une autre application vidéo d'ailleurs? Eh bien, voilà Pierre que Doctolib s'y met aussi.
Ouais, et le site Doctolib, il est utilisé par 55 000 professionnels de santé. Certains jouent le jeu de la téléconsultation. Mélanie Gomez, comment ça va se passer?
Eh bien d'abord, il faut savoir que pour que la télémédecine soit remboursée par la Sécurité sociale, comme pour une consultation physique, il y a quelques règles à respecter. Le malade doit être déjà connu par le médecin qu'il utilise, c'est-à-dire qu'il faut qu'il l'ait vu physiquement au moins une fois dans les 12 derniers mois. Et puis, il faut que ce soit un médecin qui propose aussi des consultations en vrai dans un cabinet ou à domicile chez des patients. Ensuite, ces consultations virtuelles, attention, ne sont pas adaptées non plus à toutes les maladies, comme l'explique le docteur Luc Refaber, pédiatre à Paris.
Pour une pathologie aiguë, quelqu'un qu'on ne connaît pas, alors moi, certainement pas. Je m'occupe beaucoup de pathologies chroniques. Par exemple, un enfant qui, en consultation physique, fait une crise d'asthme. On a envie, les 24 heures, 48 heures, de savoir un petit peu comment ça se passe. Pour un enfant qui toussait beaucoup, je l'ai fait se dévêtir, là, devant la caméra, pour regarder un petit peu comment il respirait, pour l'entendre tousser. Et ça m'a permis d'adapter le traitement.
Alors, il faut savoir que dans ce nouveau business, il y a Doctolib, mais il y a aussi plein d'autres sociétés qui proposent depuis quelques mois des consultations virtuelles. Et il faut faire attention, car tous ne respectent pas les règles de l'assurance maladie. Et le risque pour les patients, eh bien, c'est d'être soignés, mais pas remboursés à la fin.
Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.
Pour la toute première fois en France, Pierre, un supermarché solidaire propose des produits alimentaires périmée.
Oui, ça se passe à Avignon, dans le Vaucluse. Une association qui propose aux personnes en difficulté d'acheter à prix cassé. Certes, les dates limites sont dépassées, mais il n'y a bien entendu aucun risque pour la santé. C'est aussi un concept anti-gaspi pour inciter les grandes surfaces à moins jeter. Nathalie Chevance est allée faire un tour pour Europe 1.
C'est un supermarché presque comme les autres, sauf qu'au rayon alimentaire, toutes les dates limites d'utilisation optimale sont dépassées.
Un paquet de céréales d'une grande marque, au 26 octobre 2018, le produit peut être consommé encore plusieurs mois après la date de fin de vie. Donc là, elle était à 1 euro, la boîte.
1 euro au lieu de ?
Au lieu de, je crois qu'on est aux alentours de 3 euros dans la grande distribution classique.
Des produits offerts par les grandes enseignes, démarchés par Nabil Haïtar, bénévole au sein de l'association Ensemble Mieux Vivre en Vaucluse.
Aujourd'hui, le cahier des charges de la grande distribution est extrêmement exigeant. Les produits doivent être retirés bien avant, finalement, leur durée de vie totale. Et donc, on s'adresse à ces gens-là pour leur dire, vos produits, en fait, ils peuvent encore bénéficier à des personnes qui en ont besoin.
Avec des tests effectués sur les produits les plus sensibles, cette famille avec 3 enfants arrive à faire les courses de la semaine pour 50 euros.
J'ai pris des hamburgers, du fromage, des crêpes au chocolat, des bonbons pour les enfants. Ouais, y en a qui sont périmés depuis un mois, mais pas beaucoup, en fait.
On peut les manger, hein, 2 mois, même 3 mois après. C'est bon.
Si on avait les moyens d'aller dans un supermarché normal, on serait allé.
Un supermarché solidaire qui ne tire aucun bénéfice. L'objectif étant de servir les clients les plus modestes et de couvrir les frais. Avignon, Nathalie Chevance, Europe 1.
Il est 12h47.
Europe 1.
Restez avec nous. Dans un instant, Andy Murray arrête sa carrière de tennisman et l'Opéra de Paris souffle ses 350 bougies. A tout de suite.
Il est 12h50 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Avec le tennis, Pierre, et la retraite anticipée d'Andy Murray.
Oui, à seulement 31 ans, le double vainqueur de Wimbledon a annoncé vendredi qu'il mettait prochainement un terme à sa carrière. En attendant, il est encore vaillant sur les courts de l'Open d'Australie. Christophe Taureau, vous êtes en direct de Melbourne. Comment ça se passe ?
3h48 de jeu désormais entre Andy Murray et l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 22e mondial pour ce premier tour de l'Open d'Australie. Et c'est l'Espagnol qui a fait le break dans cette cinquième manche et il mène désormais 3 jeux à 1. Vous le disiez, Pierre Murray a annoncé vendredi sa prochaine retraite en raison de douleurs à la hanche consécutives à une opération. Alors évidemment, c'est pour cette raison que la Melbourne Arena, le deuxième plus grand court ici à Melbourne Park, n'a Dieu que pour lui. L'ambiance est absolument fantastique et c'est grâce vraiment au public que Murray a réussi à recoller à 2 manches partout. Il était mené 2-7-0, il était vraiment, vraiment mal, très lent dans ses déplacements et au physique, au cœur, il a réussi à revenir à 2 manches partout et à espérer encore dans cette cinquième manche, mais ça va être extrêmement difficile puisqu'il vient de concéder un deuxième break. Il est désormais mené 4-1.
Merci Christophe Taureau en direct de Melbourne en Australie pour Europe 1. Et le directeur de Wimbledon a d'ores et déjà assuré qu'Andy Murray aurait sa statue dans son club. Le sport encore avec le foot, les stars du PSG sont arrivés hier à Doha au Qatar pour un stage de 4 jours. Et puis hier soir, en clôture de la 20e journée de Ligue 1, Marseille a fait match nul 1-1 face à Monaco. Et puis en handball, ce soir, la France rencontre la Corée réunifiée au Mondial à Berlin.
C'est un très bel anniversaire, dites-moi Pierre, que l'on fête ce mois-ci.
Oui, les 3 siècles et demi de l'Opéra de Paris, évidemment. On a mis les petits plats dans les grands, Thierry Geffrotin, en mettant en avant de grands noms italiens de l'opéra.
Ah oui, Donizetti, Monteverdi, Rossini, Verdi, les compositeurs italiens donc pour cette saison des 350 ans, mais aussi, bien français, Hector Berlioz et son opéra XXL, Les Troyens. Écoutez bien, 16 solistes, 3 chœurs, un immense orchestre, 100 musiciens dans la fosse, 200 artistes sur la scène, du très très grand. Les Troyens, ce sera à partir du 22 janvier, dans quelques jours. Donc,
à l'Opéra Bastille, qui d'ailleurs fête ses 30 ans.
Oui, l'Opéra Bastille, construit en 1989. Le Palais Garnier, lui, inauguré en 1875. Il faut bien 2 lieux à Paris pour accueillir les 32 programmes différents d'opéra et de ballet. Cette saison, il y a aussi du Wagner, du Rameau, du Mozart. Rameau, tenez, avec les Indes galantes.
Dites-moi Thierry, les prix ?
L'opéra,
c'est cher.
Oui, l'opéra, c'est souvent cher parce qu'il y a beaucoup de moyens artistiques et techniques, mais il y a des tarifs malins. En tout cas, ils sont malins, j'essaie de l'être pour vous. Par exemple, des représentations pour les moins de 28 ans, c'est 10 euros la place. Et puis, si vous êtes plus âgé, les premiers prix pour un opéra à Bastille, c'est 5 euros. Et je dois le dire, à Bastille, quel que soit l'endroit où l'on est, On voit le spectacle. J'ajoute 6 représentations pour les moins de 40 ans, moins 40% à cette occasion. Des tarifs pour les familles aussi dans le cadre de l'opération « Ma première fois à l'opéra ». Enfin, si vous êtes en province, que vous ne venez pas à Paris, la plupart des productions de l'Opéra de Paris sont rediffusées dans les cinémas UGC.
Merci Thierry. Geffrotin, monsieur musique d'Europe 1. Et restons dans la musique avec l'extrait du tube des Enfoirés cette année. Il est signé Vianney et ça s'appelle « On trace ».
Ne tracez pas tout de suite, vous restez avec nous, bien sûr, sur Europe 1. Le tube, on l'écoutera tout à l'heure en entier, c'est promis. Je vous donne rendez-vous à 13h40 sur Europe 1. À tout à l'heure, Pierre.
Tout à l'heure.
Il est 12h54.